La croissance verte n'existe pas, n'existe pas.
Alors la réponse est non, la réponse est non, non, non.
We will have to change, we will have to change. Hope is not blah blah blah. Blah blah blah.
Bonjour et bienvenue dans les décroissants tout chauds. Aujourd'hui, nous découvrons le livre de Célia Izoard, La rue et minière au XXIe siècle, paru au Seuil au mois de janvier. Célia Izoard est journaliste et philosophe, spécialiste des nouvelles technologies au travers de leurs impacts sociaux et écologiques. Elle explore le rôle fondamental de la mine dans l'expansion du capitalisme et démasque la nouvelle ruée vers les métaux au nom de la transition écologique. Alors le problème est qu'au nom de la lutte contre le réchauffement climatique, il faudrait produire en 20 ans autant de métaux qu'on en a extrait au cours de toute l'histoire de l'humanité. Ce qui pose un léger problème. Je vous lis quelques extraits du livre de Célia Izoard. Quelle multinationale, quel État ne s'est pas engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 ? D'un bout à l'autre du globe, cette promesse est déclinée dans les conférences de presse, sur les écrans et les prospectus. Nous n'émettrons plus de gaz à effet de serre dans 30 ans. Pourtant, les engagements solennels d'IKEA n'empêcheront pas l'entreprise de continuer à acheminer ses meubles dans des conteneurs à travers les océans et à faire tourner ses entrepôts logistiques pour alimenter ses quelques 500 magasins géants.
Microsoft va continuer à faire travailler ses algorithmes, à accroître le flux de données qui transitent par ses serveurs, ses câbles et atterrissent dans des data centers qu'il faut refroidir.
Amazon va continuer à bâtir son empire des données et à parsemer les routes de camions blancs chargés de colis. Les États signataires de l'accord de Paris ne semblent pas sur le point de renoncer à leurs industries, leurs zones d'activité bétonnées.
Leurs autoroutes, leurs aéroports.
Leur production d'armement.
Leurs antennes 5G.
Par quel prodige pourraient-ils ne plus émettre de gaz à effet de serre d'ici à 2050 ? Ce miracle porte le nom de
transition.
Mais la transition, telle qu'elle est aujourd'hui portée par les élites, consiste à démontrer qu'on peut résoudre le problème du réchauffement climatique sans toucher à la production, sans toucher à la croissance. Mais quelles sont donc les possibilités matérielles de cette transition ? Eh bien, les mines et les métaux.
En effet, les batteries électriques, les éoliennes, les électrolyseurs et les milliers de kilomètres de câbles nécessaires à la nouvelle vague d'électrification planétaire requièrent des quantités phénoménales de métaux.
Les voitures électriques contiennent beaucoup plus de métaux que les véhicules conventionnels. Plus de deux fois plus de cuivre et des kilos de nickel, de manganèse, de graphite, de lithium et de cobalt. Cela conduit à des projections stupéfiantes. Convertir à l'électrique ne serait-ce que le parc automobile de la Grande-Bretagne nécessiterait l'équivalent de deux fois la production mondiale actuelle de cobalt, les trois quarts de la production de lithium et la moitié de la production de cuivre. En France, l'Académie des sciences note que le programme de véhicules électriques français fait appel à des quantités de lithium et de cobalt très élevées, qui excèdent les productions mondiales d'aujourd'hui, et ce, pour satisfaire le seul besoin français. Pour obtenir une voiture électrique dite moyenne, mélangée
8 kg de cobalt,
29 kg de nickel,
6 kg de lithium,
10 kg de manganèse,
52 kg de graphite,
20 kg de cuivre,
et 35 kg d'aluminium.
Et doubler quasiment les doses pour un SUV. Une éolienne de 3 MW et d'environ 120 mètres de haut contient
3 tonnes d'aluminium, 2 tonnes de terres rares, 4,7 tonnes de cuivre, 335 tonnes de fer et 1200 tonnes de béton.
L'électricité nucléaire dépend bien sûr de l'extraction d'uranium, mais aussi de chrome, de cuivre, de nickel et de nombreux alliages et métaux de spécialité.
Dès lors qu'elles sont déployées sur des centaines d'hectares pour alimenter des usines, des cimenteries ou des data centers, les centrales photovoltaïques deviennent elles aussi voraces en matières premières.
Un café ? Un des croissants tout chaud ?
Vous êtes bien sur Radio B avec Gaëlle
et Lola.
Alors que signifie extraire du métal aujourd'hui ? Si les familles de mineurs des environs de Rio Tinto en ont une idée concrète, pour la classe politique, les milieux d'affaires et la majorité du public, extraire du cuivre revêt une signification vague. Il s'agirait d'aller chercher un métal présent dans le sous-sol. Aurore Stéphan, ingénieure géologue, minier et fondatrice de l'association Sistex, raconte « À la fin d'une conférence, un homme est venu me demander « À quoi ressemblent les plaques de cuivre qu'on trouve au fond des mines ?» Il avait toujours pensé qu'on extrayait des plaques de cuivre. Les mots sont trompeurs. Ne dit-on pas extraire du cuivre, comme s'il suffisait d'aller le chercher ? Ne dit-on pas une mine pour désigner tout un site minier, un vaste complexe industriel dont la fosse ou les galeries n'occupent qu'une petite partie ? Ce sont là des figures de style, des métonymies, comme on dit.
Boire un verre ou manger un morceau.
Il y a plusieurs millénaires et même deux siècles en arrière, il pouvait arriver que l'on trouve dans le sous-sol ce qu'on appelle de l'or natif ou de l'argent natif, du métal presque à l'état pur.
Ces filons sont épuisés. Les métaux que l'on produit aujourd'hui proviennent de minuscules paillettes de métaux disséminées dans la roche à 300, 400, voire 3000 mètres de profondeur. Il faut donc commencer par trouver le moyen d'aller récupérer plusieurs millions de ces paillettes.
Les roches que convoient les camions de la mine de Rio Tinto ne contiennent que 0,4% de chalcopyrite. Non pas du cuivre, donc, mais le minéral sulfuré à partir duquel il est produit. Les 99,6% restants de tout ce qui est extrait ici sont des déchets. Ils occupent l'essentiel du site. Par exemple, les stériles, ces amas grisâtres que l'on baigne aux alentours à raison de 2300 tonnes par heure et qui forment plusieurs collines. S'ils sont stériles du point de vue de l'exploitant, c'est-à-dire trop pauvres pour être exploités, ils n'en contiennent pas moins des substances qui, une fois au contact de l'air et de l'eau, produisent des liquides acides et une diffusion de métaux toxiques dans les environs. Le reste de ce qui est extrait dans le Cerro Colorado part au traitement. Acheminées par les dumpers, les roches circulent sur la convoyeuse, une ceinture aérienne qui les expédie vers plusieurs étapes de concassage, de tri, de broyage. Après ces premières étapes, la roche a été pulvérisée en minuscules grains de 160 microns, la taille de grains de farine.
Une étrange activité humaine quand on y pense. Dans les dizaines de milliers de mines du monde, à toutes les heures du jour et de la nuit, d'immenses machines transforment des rochers en poudre.
Et ça fait ce bruit-là. Penchons-nous maintenant sur le secteur du numérique. Il y a un siècle, on utilisait dans les sociétés occidentales une vingtaine de métaux différents. Et encore, rarement pour des objets diffusés en masse. Alors qu'aujourd'hui, on utilise couramment plus d'une cinquantaine de métaux et d'éléments. Le développement de la micro-informatique y est pour beaucoup. La miniaturisation des appareils a été acquise en exploitant les propriétés d'une diversité inédite de minéraux. Pour assurer la conductivité à l'échelle nanométrique dans les semi-conducteurs, on a remplacé le cuivre par du cobalt ou du rhétinium. Les LED des écrans apparaissent bleus grâce à de l'indium et rouge-orangé grâce à un mélange d'arsenic et de phosphore. Le milliard de smartphones qui sortent chaque année des usines asiatiques, ainsi que les tablettes, ordinateurs, imprimantes, scanners, consoles, plus l'infrastructure de Big Data avec ses millions de serveurs, ses câbles, ses antennes. Tout ceci nécessite donc de déplier et de combiner presque tout l'éventail des métaux. Et bien qu'il ne soit utilisé qu'en quantité minuscule dans chaque appareil, Étant donné la croissance exponentielle du secteur, les volumes deviennent de plus en plus importants. L'électronique engloutit déjà le tiers de la production mondiale de tantale et d'argent. Quel sera l'impact sur la demande en métaux si la capacité des data centers double dans les 5 prochaines années, comme on le prévoit ? Combien de métaux seront nécessaires pour passer de la 4G à la 5G ? Cet enjeu, pourtant central, a été complètement ignoré. Il existe peu de données et très peu de moyens d'imaginer ce que cela représente. Gloria Filk, experte en économie circulaire à Zurich, y a consacré une thèse. Elle estime qu'un déploiement complet de la 5G à l'échelle mondiale pourrait nécessiter 4 fois la quantité de palladium produite chaque année sur la planète, pour les condensateurs et les connecteurs, près de 3 fois la production mondiale annuelle de ruthénium,
contracteurs, puces, disques durs,
et de terbium,
pour l'éclairage des écrans,
9 fois la production de beryllium,
utilisé comme isolant dans les semi-conducteurs,
ou encore 11 fois la production de graphite,
pour les batteries.
Pour certains peuples amazoniens, il ne fait pas de doute que les Occidentaux sont des êtres miniers, des êtres qui entretiennent un rapport spécifique et maladif à l'extraction.
Chez les Yanomami, qui vivent en Amazonie brésilienne, les Blancs sont appelés mangeurs de terre, parce qu'ils creusent la terre sans répit, comme des tatous géants, à la recherche de métaux et de pétrole.
C'est ce que nous a appris Davi Kopenawa, chaman Yanomami et défenseur de la forêt amazonienne, dont le récit a été recueilli par l'anthropologue Bruce Albert dans « La chute du ciel ».
Nous n'arrachons pas la peau de la terre, dit Kopenawa. Nous cultivons seulement sa surface car c'est là où se trouve sa richesse. Les Blancs, au contraire, pensent que la forêt est morte et vide et que la nature est là sans raison et qu'elle est muette et que la vraie richesse est la marchandise que l'on obtient en transformant les minerais extraits du sous-sol. Seul leur importe de cuire le métal et le pétrole pour fabriquer des marchandises.
En dévorant la terre pour la transformer en objet marchand, les extractivistes détruisent leur propre habitat.
Les Blancs ne comprennent pas qu'en arrachant les minerais de la terre, ils propagent un poison qui envahit le monde et qui en mourra, explique Kopenawa. Le souffle de la fumée des minerais brûlés s'étend partout. Et tous en sont atteints, les humains, les animaux et la forêt.
Il n'est guère étonnant que certains peuples autochtones de l'Amérique du Sud appréhendent les Occidentaux par ce prisme minier. Les conquistadors qui ont pénétré leur monde à la fin du XVe siècle étaient assoiffés de métaux précieux. C'était la motivation essentielle de la conquête. Christophe Colomb consigna dans son journal que l'or fait le trésor, et celui qui le possède fait ce qu'il veut ici-bas, et même envoie les âmes au paradis. Vers 1518, rusant pour convaincre les émissaires de l'empereur Moctezuma de lui procurer le précieux métal, Cortés formula un mensonge qui n'était qu'un aveu troublant. « Dites-lui de m'en procurer, car mes camarades et moi souffrons d'une grave maladie du cœur que seul l'or peut guérir. » Les messagers aztèques qui vinrent offrir des colliers d'or à ces Espagnols pour les mettre dans de bonnes dispositions ne purent que constater
qu'ils convoitent l'or comme des porcs affamés.
L'idée que les Européens sont en proie à une étrange maladie extractiviste est aussi ancienne que la conquête. Quant à l'Amazonie, elle n'a cessé d'être une frontière extractive depuis plus de 4 siècles. Quand, en 1595, Sir Walter Raleigh partit en expédition le long de l'Orénoque jusqu'au plateau des Guyanes en quête de l'Eldorado. Davi Kopenawa a grandi dans son village sous la menace des Garimpeiros, les chercheurs d'or qui dévastent la forêt et empoisonnent les cours d'eau au mercure pour amalgamer le métal. Ses proches ont été tués par les maladies infectieuses qu'ils ont apportées et par les confrontations armées avec les chercheurs d'or. Dans le même temps, l'immense forêt est déboisée en toute légalité par les entreprises pour implanter des routes et des barrages hydrauliques afin d'exploiter du cuivre, du nickel, de l'étain, de la bauxite, du fer, du niobium, du manganèse.
Et encore et toujours de l'or.
Au Brésil, en 2018, les concessions et les permis miniers couvraient une étendue de 1,65 million de kilomètres carrés, dont 60% sont situés en forêt amazonienne. Le monde a beaucoup changé en 4 siècles. Mais la fièvre extractive n'a pas baissé. Nous avons bel et bien creusé la terre sans répit, comme des tatous géants. Mais pourquoi ?
Pas bien malin des riches enfin,
si l'on pioche pic-pac dans la terre ou dans la roche,
dans la mine,
dans la mine,
dans la mine,
dans la mine,
ou un monde de diamants brille.
On pioche pic-pac, 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 du matin jusqu'au soir. On pioche pic-pac, 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 tout ce que l'on peut voir.
On pioche les diamants par morceaux, les sacs de rubis par quintaux, pour nous en parler.
À très bientôt sur Radio B et n'oubliez pas que vous pouvez réécouter les podcasts sur le site.
Merci Lola, à bientôt.
Vert n'existe pas, n'existe pas.
Alors la réponse est non, la réponse est non, non, non.
We will have to change, we will have to change.
Hope is not blah blah blah. Blah blah blah.